Donc je vais commencer par faire l'appel. Donc Isabelle Touzard présente, Gilles Cuzin.
Présent.
Juliette Taproki-Camard.
Présent.
Gilles Chicot, absent. Absent, j'ai pas pouvoir. Séverine Ségismond.
Présente.
Corinne Durand.
Présente.
Mélanie Arnal. Absente. À donner pouvoir.
Oui.
À Claudine Moyen. À Claudine Moyen. Hélène Bonnet-Cuel.
Présente.
Dominique Barine. Absent. À donner pouvoir à Jean-Claude Mouret. Guillaume Garcin.
Présent.
Laurent Mailly.
Présent.
Jean-Claude Mouret.
Présent.
Claudine Bouillard-Anne.
Présente.
Patrick Ortigosa, donc va arriver, il y a un peu de part. Véronique Pomarel.
Présente.
Laurent Pratt.
Présent.
Laurence Rousseau.
Présent.
Présente. Bernard Sonneau.
Il a
donné un pouvoir. Il n'a pas donné un pouvoir
à Laurent. Il a dit qu'il avait donné un pouvoir, mais je ne sais pas s'il a fait les documents. Donc,
voilà, il n'a pas fait
le document. Donc, s'il n'a pas le document, il n'a pas le pouvoir.
Et Yolande Théron, vous pouvez parler. Merci. Donc, on fait tourner le papier. La liste des largements, n'oubliez pas de signer pour les personnes que vous représentez.
Ça donne un pouvoir.
Voilà. Donc, on va passer à l'approbation de l'ordre du jour. Avant de l'approuver, je vais proposer qu'on, si vous en êtes d'accord, qu'on ajoute un point à l'ordre du jour, qui sera donc une neuvième affaire, puisqu'il y en a huit, qui est l'adaptation, l'évolution de la grille tarifaire pour la restauration scolaire. Nous allons vous proposer une nouvelle grille tarifaire. Moyennant cette modification de l'ordre du jour et l'ajout de cette affaire, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, merci. Qui se propose d'être secrétaire de séance? Séverine, merci. Séverine Ségismond, secrétaire. Et donc, on passe à l'approbation du compte-rendu valant procès-verbal du conseil du 10 mai. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, on passe au premier point qui concerne. Donc, on a trois points aux affaires budgétaires. Premier point donc présenté par Séverine, c'est une première décision modificative à notre budget primitif 2021.
Oui, donc en fait, la commune a signé un contrat pour un emprunt de 250 000 euros. Et suite à l'intégration de cette nouvelle recette dans le budget, il faut équilibrer au niveau des dépenses. Donc il y a des petites modifications, que ce soit en section fonctionnement ou investissement. Avec des sommes en moins en dépenses ou en plus. Notamment en fonctionnement, on a une petite somme aux dotations amortissement qui vient de se rajouter suite aux travaux de voirie. Ensuite, on a des moins sur des opérations qui ne se feront pas sur cette année. Donc voilà, une décision modificative sur différents chapitres.
Donc là, je ne sais pas si. Donc logiquement, les moins, c'est équivalent des plus.
Oui.
Bon. Moyennant donc, le CDM, donc si je récapitule, c'est des régularisations sur les amortissements, c'est ça?
Oui.
L'emprunt qui fait donc une modification de 56 000 euros et des dépenses en moins au niveau des biens immobiliers, plus des petites écritures comptables, si je comprends bien, les 196
000. Oui, oui, ça c'est l'amortissement par rapport aux travaux sur la voirie.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces modifications ? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Alors après, le deuxième point, c'est l'exonération, donc c'est un point qui touche à l'exonération de la taxe foncière liée à des nouvelles constructions à usage d'habitation. Donc tu présentes, Cédric ?
Oui. En disposition de l'article 1383 du Code général des impôts, le conseil municipal peut limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières pour les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement. Cette délibération peut toutefois limiter les exonérations uniquement pour ceux des immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de voter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière, pour les nouvelles propriétés bâties ou tout ce qui est addition de construction, de reconstruction, voilà.
À hauteur de
40% de la base imposable, oui. C'est important de préciser. Et c'est uniquement pour les immeubles à usage d'habitation.
C'est nouveau, ça, ce qu'on vote ?
Alors, ça existe, ça a toujours existé. Jusqu'à maintenant, dans la commune, ce n'était pas appliqué. Je ne dis pas de bêtises, hein. C'était
non, c'est pas ça. En fait, c'est autre chose. C'est en fait l'exonération. Sur l'objet des immobiliers, on a voté qu'on n'appliquait pas l'exonération.
Voilà.
Donc, l'exonération de 2 ans de la taxe foncière, elle est mise en place de fait, sauf si la commune délibère pour dire qu'on ne met pas en place cette exonération. Donc, en Neuvielle, il n'y a jamais eu d'exonération de la taxe foncière, bâtie ou non bâtie, pour les constructions nouvelles à usage d'habitation. Il n'y a jamais eu d'exonération. L'élément nouveau, c'est le département.
C'est la réforme fiscale.
C'est la réforme fiscale et le transfert des taxes du département à la commune. Ce qu'on a vu en réunion. C'est-à-dire que maintenant, avec le désengagement de l'État, enfin le fait que l'État nous demande d'arrêter, que la taxe d'habitation s'arrête, pour compenser la taxe d'habitation, c'est donc la part départementale de la taxe foncière qui nous est reversée. Or, le département, lui, avait voté une exonération. Donc maintenant, on se retrouve avec une taxe foncière, avec l'ex-part départementale et l'ancienne part communale. Donc l'État nous demande de délibérer avant octobre sur notre nouvelle disposition par rapport à l'exonération, sachant qu'on est autorisé à... on doit voter une exonération, mais on peut la diminuer là où on souhaite. Donc, ce qu'on propose, c'est de la mettre à 40%. Avant, on n'exonérait rien du tout, c'était 0%. Là, ce qu'on propose, c'est d'exonérer 40%, qui est le minimum légal qu'on peut appliquer. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est au bénéfice des... Est-ce que c'est clair ou pas ?
Ça va, mais je n'étais pas la réunion.
Ouais. En fait, aujourd'hui, donc, les nouveaux habitants de Neuvielle vont avoir une exonération de la taxe foncière de 40% pendant les 2 premières années, alors qu'avant, ils n'avaient pas d'exonération du tout.
Mais avant, on n'a pas connu la période où on était exonéré pendant 10 ans.
Deux ans.
De taxe foncière,
ah, oui.
Il y a 30 ans.
Moi, je n'ai pas connu ça.
Non, c'était la taxe foncière. À Neuvielle, il n'y avait pas d'exonération de la part communale sur la taxe foncière. L'exonération des 2 ans n'avait pas été modifiée.
Moi, j'ai souvenir de ne pas l'avoir payé non plus pendant 2 ans. Il y a 20 ans.
Ouais, mais cette disposition n'avait pas été délibérée. Donc là, en plus, c'est un moyen de régulariser les choses. Et les 40%, donc là, on applique On a reçu donc des textes de la base d'impôts qui nous disent qu'il faut avant le 1er octobre délibérer sur cette exonération. Donc soit on souhaite exonérer totalement, c'est 100%, soit on exonère au minimum et c'est 40%. Voilà. Sachant que ça va donc générer un volume de transfert de recettes, mais qui ne vont pas forcément compenser les ex-taxes d'habitation. Donc normalement, dans les dispositions du gouvernement, la différence entre les recettes qu'on avait avec les anciennes taxes d'habitation et ce transfert qu'on a du département doit être compensé par le gouvernement pour que ce soit neutre au niveau de nos recettes. Normalement. Ça, c'est l'engagement du gouvernement Macron. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Parce que c'est un sujet un peu complexe.
Les 60% sont perdus alors?
Pour qui?
Non. Pour la municipalité?
Non, ah non. Ils seront compensés par l'État. C'est-à-dire que. Comment expliquer ça? Les communes avaient des dispositions avant. Chaque commune avait pris ses dispositions. Le fait qu'on transfère, que le département, et ça c'est une disposition du gouvernement, le fait que maintenant on doive accepter de prendre la taxe foncière, c'est pas nous qui avons le choix, ils nous transfèrent automatiquement la part départementale de la taxe foncière. Donc après nous, à partir de là, on va redélibérer sur les exonérations ou pas exonérations. Et ensuite, ça va venir, la décision selon les communes, ça va venir compenser en partie la taxe d'habitation, et le reste, par rapport à ce qu'on percevait, donc l'année de référence est en 2017, hein, 2017 c'est l'année de référence de la taxe d'habitation, et après ils font évoluer le volume en fonction de l'évolution du nombre d'habitants. Donc ça va être une équation simple, hein, qui fait qu'en fonction du nombre d'habitants officiels, ben, le montant de l'ancienne taxe d'habitation va être calculé. Enfin, si c'est clair. Donc sur ce base de calcul, l'État, d'après ce qu'on nous explique, hein, compensera de dotation, l'écart. Donc, pourquoi est-ce qu'ils nous transfèrent en fait la taxe foncière du département? C'est que constitutionnellement, les collectivités doivent avoir un levier fiscal, doivent pouvoir maîtriser un minimum leurs recettes. Et la façon de les maîtriser, d'avoir une fiscalité, quoi. Un levier fiscal sur lequel ils puissent définir un minimum le montant de ces recettes. Avec la taxe d'habitation disparaissant, on n'a plus le levier. Ce levier-là pour décider de recette. C'est en partie compensé avec le transfert de l'ex-taxe de la taxe foncière. C'est ça un peu l'esprit de ce qu'on a compris, hein, de l'esprit du transfert.
Ouais, ça ne va pas complètement compenser le manque à gagner de la taxe d'habitation.
Logiquement, ils sont censés compenser. Après.
Mais la taxe d'habitation, elle est normalement compensée. Ça n'a rien à voir, c'est un autre versant qui normalement est compensé par l'État, mais intégralement par rapport aux chiffres qui ont été les chiffres de base.
Mais la taxe d'habitation construite, on n'a jamais pu connaître l'impact sur la commune.
C'est quoi?
Tous les ans, depuis 2017, il y avait, c'était, je ne sais plus, les revenus inférieurs à temps, après ça a été... Voilà.
Oui.
Mais tu vois, par rapport aux communes, ça les a quand même mis en difficulté. Est-ce que ça va compenser? Enfin, pour moi, c'est un peu...
Non, mais c'est...
On a eu des compensations. Par rapport à la taxe d'habitation, certes, ça a été fiché. C'est-à-dire que dans la ligne fiscalité, ça diminue, mais dans la dotation d'État, c'est compensé. Pour maintenir le niveau qu'on percevait de la taxe d'habitation.
Mais effectivement, après, tu n'as plus le ressort que tu avais sur la taxe d'habitation, qui était de pouvoir l'augmenter de temps en temps et de faire rentrer de recettes, vu que c'est figé, c'est figé. Donc il fallait trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, c'est d'aller sur une autre taxe. Où là, tu dois avoir une certaine latitude. Mais ça va être long, mais de toute façon...
Maintenant, notre seul levier fiscal, ça va être le taux d'imposition sur la taxe foncière. C'est le seul levier qu'on aura de l'élément. Alors qu'avant, on avait taxe foncière et taxe d'habitation. Maintenant, on aura taxe foncière, mais avec la part départementale qui nous est transférée.
Si je comprends ce que dit Gilles, la taxe d'habitation, il c'est séparé de la taxe foncière.
Ah oui.
Donc là, elle est compensée intégralement. On va rester avec ouais. Oui. Et en plus, on a une taxe foncière, mais pas la taxe foncière qui arrive qu'on n'avait pas. Donc
non,
on va bien avoir une augmentation.
Non, non,
on ne la maîtrisait pas. Là, les 40% qu'on va maîtriser, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir jouer. Le reste, de toute façon, c'est revenu en intégralité. Là aussi, c'est figé pour l'instant. Sauf s'il y a 100% qui arrive. Pour l'instant, dans un premier temps, c'est 40%.
Alors, c'est
ça, c'est
j'ai pas compris.
Oui, les exonérations.
Dans la mise en Laurent, c'est autre chose. On avait un montant de taxe d'habitation qu'on ne perçoit plus.
Oui.
Maintenant, on va percevoir le montant, la part départementale des taxes foncières.
Ah, c'est pas ce qu'a dit
Gilles. Oui, non,
c'est autre chose. Non.
D'accord. Donc, ça compense une partie de la
ça
perte de la taxe d'habitation.
Ça compense une partie de la perte de la
d'accord.
taxe d'habitation.
Okay. C'est pas ce que
et donc, la différence entre d'accord. la taxe foncière, okay. la part départementale, et ce qu'on devait normalement
d'accord.
recevoir par la taxe d'habitation est compensée
je
par
comprends.
L'État. Et l'État fait son calcul sur la base de l'année de référence 2017, figé. Ils ont pris l'année 2017, parce que comme la décision a été prise par Macron en 2017, ouais. en 2018, il y a beaucoup de collectivités qui ont tout de suite augmenté leur taux d'imposition. Et donc, du coup, pour éviter cet effet un peu pervers, ils ont pris comme année référence 2017. Et donc, 2017, et ensuite, ils appliquent un coefficient multiplicateur en fonction de l'évolution de la population. Voilà. Donc, ça calcule un montant théorique de l'ex-taxe d'habitation, qui est en partie compensé par la taxe foncière. Et le gouvernement s'est engagé, et les engagements, c'est à compenser.
Je pensais qu'il y aurait un petit miracle, on aurait une augmentation de ressources fiscales.
Oubliez. On est justement en train de dire ça va se complexifier.
C'est ça.
Ça va se rigidifier.
Donc, il faut donc, là, par rapport à la fiscalité, il y a une disposition qui est particulière, qui est les fameux deux premières années dans lesquelles. Les habitants arrivent. Donc nous, la proposition qu'on avait faite en réunion au Ménard, c'était de limiter, de faire cette exonération, mais de la limiter à 40%. C'est-à-dire que les personnes payent 60% de ce qu'ils auraient, de ce qu'ils paieront ensuite au bout de deux ans à taux plein. Sur les usages, les immeubles à usage d'habitation, on est bien. Et donc là, ça va s'appliquer à l'ensemble des deux parts, ex-départementale et ex-communale. Parce que maintenant, il faut qu'on ait une disposition homogène pour les... Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un peu une mécanique. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, unanimité, merci. Après, c'est des admissions en non-valeur.
Alors, les admissions en non-valeur, ce sont des recettes pour lesquelles la trésorerie a fait toutes les démarches pour les récupérer, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité pour récupérer ces sommes. Donc, de temps en temps, la trésorerie nous envoie une liste des sommes qui sont irrecouvrables. Et il faut les admettre en non-valeur, ce qui implique que la commune va devoir faire un mandat d'annulation sur des titres qui ont été émis, puisque on avait émis un titre pour dire qu'on encaissait cette somme. Comme on n'a pas reçu l'argent, maintenant il faut faire un mandat pour les sortir du budget, puisque nous on avait fait un titre pour récupérer ces sommes. Donc il y a toute une petite liste pour laquelle vous allez avoir le détail des sommes qui sont concernées. Donc ça peut être des paiements de cantine, ça peut être des loyers, ça peut être un emplacement pour le marché. Et ça fait un montant total de 2427,96 €. Et là, on a des sommes qui remontent à la plus ancienne, à 2013. Voilà.
Là, on est d'accord, c'est de la perte sèche, puisqu'on a récupéré pas.
Non.
Et par exemple, c'est quoi des dépôt de bilan?
Eh ben, c'est une entreprise, une société qui a déposé le bilan et là, tu n'as aucun moyen de récupérer. À partir du moment où ils ont déposé le bilan, bah, la société n'existe plus et on n'a pas de moyen de récupérer en fait, ces sommes.
Mais pourquoi nous, la commune aurait à payer un dépôt de bilan par des dettes?
Non, en fait, tu ne payes pas la dette.
C'est-à-dire
que quand il y a eu. Pour se faire verser un loyer, par exemple, la commune émet un titre. Mais quand tu émets un titre, l'argent n'est pas encore sur le compte, c'est pour lui demander le loyer. Et en fait, ce sont des titres pour lesquels l'argent n'a jamais été reçu. Donc aujourd'hui, ces titres, quand tu émets un titre, ils apparaissent dans le budget en recette, sauf que cette recette, on ne l'a jamais perçue. Donc à maintenant, il va falloir faire un mandat pour annuler ces titres. Voilà.
En fait, c'est la trésorière. Vous savez que dans l'ordonnateur n'est pas le payeur, hein, dans son public, donc on ordonne les dépenses et les recettes, mais nous, pas nous qui...
À partir du moment où les titres sont envoyés en trésorerie, c'est à la trésorerie de faire les démarches pour récupérer les fonds. La commune n'a plus la main dessus, en fait, on n'a pas... Si par exemple quelqu'un se présente en mairie pour dire ben, « moi je viens payer ma dette », on n'a pas le droit de récupérer cet argent. L'argent doit être versé à la trésorerie. Voilà.
Quand vous payez le trésor public, hein, vous ne payez jamais à la mairie. Et donc là, c'est la trésorière qui est garante du recouvrement. Et donc elle nous demande au bout d'un moment, au bout de plusieurs années où elle ne peut pas recouvrer une recette, une facture qui ne peut pas être honorée, ben, elle nous demande de le passer en non-valeur.
Pas
travailler
avec le cabinet de recouvrement, des choses comme ça, pour
savoir. Non, on n'a pas le droit. C'est la trésorerie. Nous, on n'a pas
c'est ça.
C'est elle, normalement, qui doit faire les saisies, qui doit lancer toutes les procédures. Après, sur les petits montants, il n'y a pas toujours des procédures qui sont faites.
Les 1397, c'est une facture, c'est un titre, et en face, c'est l'entreprise qui est en faillite, donc qui ne peut pas payer. On n'aura jamais cet argent.
Donc, il nous a payé, mais il nous a faim de payer.
Oui,
c'est ça. Ah ben c'est différent.
Oui, il peut avoir versé le chèque et que le chèque est revenu en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Ou qu'il n'a jamais payé.
Ou qu'il n'a jamais payé aussi.
Alors, c'était pas une recette.
Donc là, ça, c'est des régularisations comptables qui se font aussi tous les, je sais pas, les 3 ans, les 4 ans.
C'est 2 ans.
Ça monte à 2013, pour certains. Donc là, je dirais. Voilà, on fait trois dessus, quoi. Ça passe par pertes et profits.
C'est quoi. Ça.
Est-ce qu'il y a des observations sur ces admissions en non-valeur?
On
ne
peut pas être
contre. Donc, qui s'oppose à ce tableau d'admissions en valeur des types de recettes qui ont été présentés par Séverine? Qui s'élève à 2427,96 €. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci. Et donc là, on passe à une convention relative au jardin partagé, à la mise à disposition de la parcelle. Ça, c'est Jean-Claude qui nous
présente. Merci. Bon, je propose de peut-être proposer une convention relativement synthétisée. Si je peux dire, de vous lire la convention pour ceux qui n'auraient pas lu, ça sera vérifié.
La délibération.
La délibération, pardon. La mairie de Montpellier a acquis récemment par un bail amphithéotique de 30 ans une parcelle en friche peut aménager et souhaite valoriser par la mise à disposition de jardins partagés pour les habitants. Sa situation privilégiée dans le village au cœur d'une aire à forte valeur historique et patrimoniale, site archéologique du Castellas, montagne romaine et pour l'histoire récente cadre coopérative, a conduit les élus à rechercher une forme d'aménagement qui contribue qui combine valorisation agricole sous forme de jardin partagé et protection du patrimoine historique du site. Ce terrain sera mis à disposition de l'association des jardins de Murviel par le biais d'une convention. Cette dernière précise que la commune de Murviel et Montpellier met à disposition gratuite de l'association des jardins de Murviel une partie de la parcelle qu'elle a fait AK29. Cet espace a une surface approximative de 1250 m². Je précise que c'est la surface réservée au jardin. La surface de la parcelle est de 4600 m². L'espace mis à disposition par la mairie sera utilisé par l'association à usage exclusif du jardinage dans des jardins potagers individuels et collectifs dans les conditions définies par les statuts de l'association. L'usage de produits phytosanitaires de synthèse est interdit. Toute modification de statut du règlement intérieur de l'association doit être communiquée à la municipalité dans un délai de 2 mois. Les modifications sont susceptibles d'entraîner l'établissement d'un avenant ou la caducité de la présente convention. Les seuls aménagements et constructions tolérés sont la construction ou l'installation d'un cabanon collectif conformément aux règles d'urbanisme ainsi que des clôtures séparatives légères en matière végétale. Les réservoirs d'eau d'arrosage sont admis dans la limite d'un volume total de 5 m³ dans des containers de 1 m³ maximum. La construction de puits ou forages au sein de l'espace mis à disposition est interdite. Dans la parcelle, les équipements d'agrément, tables, chaises, jeux, barres, etc. sont limités aux besoins du repos du jardin. La présente convention est conclue au titre de l'année civile 2021. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est deux mots sur l'association. L'association Les Jardins de Murville a été créée lors de l'Assemblée générale constitutive du 12 février 2021. Les statuts ont été déposés à la préfecture. Un conseil d'administration a été élu lors de cette assemblée et est constitué de 5 membres qui sont à la fois tous co-présidents. Il n'y a pas de président nommé individuel. Les statuts ont été déposés donc, et le règlement intérieur aussi avait été discuté, plus ou moins voté lors de cette assemblée générale. Il a été rediscuté, remis à plat. J'ai une version du règlement intérieur, mais qui n'est pas encore validé, celui-là, non, par l'association.
Bien, on peut aussi ajouter que ça y est, on a reçu la notification de la préfecture que donc on a la subvention donc de 50% déjà pour les différents aménagements qu'on va faire dans la parcelle, qu'il s'agisse de l'eau, de la clôture, du défrichage, de plein de petites choses, la rampe d'accès. Donc on attend toujours la notification du département, mais en ce moment avec les élections, je crois qu'il faut qu'on attende la rentrée pour avoir. On peut déjà engager des travaux, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est un aménagement qui se fait chemin faisant. Il y a déjà 8 jardins individuels, c'est ça ? Et 1 jardin collectif.
7 adhérents, fait 15 adhérents en tout, 8 adhérents jardins individuels et 7 adhérents jardins collectifs. 15 adhérents.
Et puis qu'on attend de voir aussi de stabiliser la question de l'eau aussi pour continuer après à augmenter le nombre de jardins et de voir clair sur le. L'approvisionnement.
Il y a quelque chose qui me gêne, c'est le mitage du jardin avec des cuves blanches. On ne peut pas mettre une seule grosse cuve, comme j'avais proposé, à côté de la rue Médon, pour éviter d'avoir plein de cuves blanches un peu partout, au milieu de verre, ça ne fait pas très joli, ça fait un peu le caractère.
Mais là, pour l'instant, on est dans une situation un peu où on met en place.
Si c'est inscrit là-dessus, c'est bloqué.
C'est une possibilité dans la vie.
On a discuté de ça en fait. Excusez-moi. Claudine. L'idée d'avoir une cuve d'un mètre cube, c'est de ramener l'eau à proximité des jardins quand même. Donc là, si on a une cuve de 6 mètres cubes qui est dans un endroit, il va falloir quand même aller chercher l'eau, des arrosoirs, etc.
Tu es obligé d'aller chercher l'eau quand même.
Non, mais la cuve est.
Non, parce qu'il y a deux cuves qui sont pour les jardins individuels et une cuve pour le jardin collectif. Ouais. Donc, du coup, il y a quand même de la proximité, parce que sinon.
Il faut les remplir à ces cuves.
Oui.
Donc, tu amènes bien l'eau à ces cuves.
Oui,
puisque tu amènes de l'eau, je parle de la fontaine à la cuve ou de la fontaine au jardin, tu pourras quand même l'amener.
C'est pas vécu de la même façon.
Alors que si tu as une réserve plus importante à côté. Eh bien, ça fait qu'une cuve qui peut être camouflée dans les herbes, tout ça un peu plus propre, plutôt que d'avoir des points blancs un peu partout.
Pas la ça préoccupation, c'est plus le jardinier depuis voilà, le point d'apport, jusqu'à son jardin, d'avoir à proximité.
Si tu as la cuve au fin fond là-bas, et que tu pars avec ton arrosoir et tu vas jusqu'au.
Vous la mettez au milieu des jardins. Allez, si c'est ça. Ça me crée ça sur. Je sais pas.
On va les découvrir.
Voilà. Moi ça me gêne qu'on en fasse sur votre plage.
Je pense que c'est quand même une solution interdite. Les cuves d'un côté, 5 euros, c'est pas un investissement très lourd. Mais ce qui est prévu, ben, c'est à terme, peut-être, espérons l'année prochaine, d'amener l'eau. Chaque parcelle aura son revenu. C'est ce qui est prévu.
L'idée, c'est d'amener l'eau, mais avant, ce qui est important, c'est que se prendre le temps, c'est ce qu'on avait convenu, de prendre le temps de l'année, de bien observer le fonctionnement de la fontaine sur place, de la fontaine romaine, de voir comment évoluent les niveaux d'eau, etc. On a le financement, on vient pour la tuyauterie, pour stabiliser le système de ressources en eau tout au long de l'année, parce qu'il y a peut-être une ressource qui va prendre le relais d'une autre ressource, et qui va prendre, avec peut-être aussi des idées de ressources encore en réserve au cas où, enfin bon, faut bien. Et pourra faire une vraie, entre guillemets, adduction d'eau avec un robinet. Quoi. Là, pour l'instant, on est dans une solution un petit peu provisoire où on travaille de l'eau, je veux dire ça comme ça. Donc je pense que c'est pas gravissime pour...
Non, ça, franchement, bon, c'est super joli, on a fait quelque chose de sympa. Je trouve que ça va un peu casser l'atmosphère.
Oui, mais c'est provisoire, donc c'est pas grave. Enfin, je pense que c'est pas grave. Bien pris en compte, par contre, et je pense qu'on partage tous la notion de l'esthétique un peu, parce que l'agroécologie, ça va aussi avec l'esthétique, et je pense qu'on est tous là-dessus, on partage ça. Donc là, peut-être pour l'année, cette année, et puis on prend bien en compte qu'il faut réfléchir à quelque chose de...
Moi, personnellement, la priorité, c'est l'aspect fonctionnel, pour pouvoir jardiner, et l'aspect esthétique passe pas du tout en premier.
Mais c'est possible, on peut voir ça dans un deuxième temps.
Je ne trouve pas franchement que ça gâche le paysage du jardin partagé. Personnellement, c'est mon avis.
Ah, mais sans l'esthétique, de toute façon. Hein
après, de toute façon, c'est très facile de mettre, de les entourer de je ne sais pas quoi, de bambou, de roseaux, pour faire un truc joli. Hein, c'est pas...
Des bambous, des canis.
J'invite ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'aller sur cette parcelle depuis qu'elle était en friche et comment elle a évolué, c'est assez sympathique. Il y a des coups de pouce, il y a des fleurs, il y a des aménagements.
Ça prend
du bien. De en fait, ouais, c'est sympa.
Moi, je trouve ça incroyable.
Enfin,
franchement, il y a maintenant, c'est énorme.
En 3 mois.
La terre est bonne, les jardiniers sont bons.
Donc on peut noter au PV qu'on envoie une félicitation aux jardiniers pour le travail qu'ils ont réalisé jusqu'à
présent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, on prend en compte les suggestions. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on prenne, en même temps qu'on assure aux jardiniers, mais qu'on prenne bien le temps de bien poser toutes les choses, bien les graver en main, pour pouvoir arriver à quelque chose de durable et de... De toute façon, quand on est soi-même dans son jardin, quand je sais que mon jardin, il ne s'est pas fait en un jour. Hein. Il y a des années à le faire. Donc, on arrivera comme ça. Bon, mais moyennant les observations qui ont été faites, on regardera. Qui est contre l'adoption de la convention? Qui s'abstient? Donc, adopté. Merci beaucoup. Ensuite, on passe à une convention avec le partenariat avec le département pour la diffusion de nos données, diffusion de données ouvertes et intelligentes. C'est bien.
Oui, alors on avait évoqué ça la dernière fois. L'idée c'est de pouvoir standardiser nos échanges de données avec les métropoles, avec le département, du coup, pour répondre à l'obligation de mise à disposition des données publiques, pour la transparence de la vie publique. Donc, la mise à disposition des données numériques open data est devenue un élément majeur en termes d'évolution vers le numérique. Ce phénomène dépasse le simple aspect technique et se caractérise par un changement dans la relation entre citoyens et les collectivités et s'inscrit de ce fait dans une vraie mission de service public de transparence et de visibilité. La loi pour une république numérique crée l'obligation pour les organisations publiques de publier sur Internet leur base de données, sous réserve notamment d'anonymisation, de protection de la propriété intellectuelle, du secret des affaires et de la sécurité intérieure. La loi prévoit désormais que les demandeurs peuvent solliciter afin d'accéder à un document administratif la publication en ligne de ce dernier. Cette diffusion publique doit être faite dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La réutilisation des données numériques par des tiers constitue un vecteur d'innovation et de création de valeur. Cette réutilisation est un droit qui s'exerce dans des conditions prévues au titre 2 du livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. L'ouverture d'un portail territorial mutualisé permet de lancer une dynamique pour nos territoires d'expérimenter, d'échanger et de dialoguer avec eux. Elle a pour objectif de faciliter la réutilisation des données publiques en offrant le service le plus efficace pour les usagers. Elle permet de réaliser des économies d'échelle en incitant l'ensemble des partenaires à constituer et partager un patrimoine numérique commun. De plus, cette ouverture permet d'initier au sein des collectivités une meilleure gestion de leur patrimoine numérique. Le département est engagé dans une démarche d'ouverture des données publiques au travers de sa plateforme HeroData. Cette démarche est avant tout au service de la transparence, du développement économique et social, ainsi que de la valorisation et de modernisation de l'action publique. Le département souhaite publier des jeux de données selon des standards définis au niveau national et territorial. Il est ainsi proposé de poursuivre cette dynamique au service du territoire départemental et des partenaires intéressés. La présente convention a pour objet de formaliser les conditions de mise à disposition par le département d'un portail Open Data qu'il administre sur la partie données afin de diffuser des jeux de données du partenaire. Le département s'engage à mettre à disposition du partenaire son infrastructure départementale de données, à assurer le bon fonctionnement du portail Open Data départemental, de valoriser les données du partenaire avec la région Occitanie et de fournir une offre de services gratuite et clé en main au partenaire, celle-ci comprenant un hébergement des données avec un accès sur les plateformes, conçu pour l'ouverture et le partage de celles-ci, ainsi que la mise à disposition d'outils permettant leur représentation graphique, un accompagnement en présentiel ou à distance pour la mise en œuvre de l'offre de services dans un cadre d'une animation territoriale, une valorisation des données ouvertes sur le portail territorial. Donc le département s'engage aussi à publier les données du partenaire en mentionnant l'origine sous condition que les données transmises respectent les exigences sur la donnée ouverte émise par le département et détaillée à l'article 5 de la présente convention. Et voilà, le partenaire s'engage, donc ça c'est nous, on s'engage à, au moment de la signature de la présente convention, à désigner au sein de sa structure une ou plusieurs personnes référentes entre la partenaire et le département. On s'engage à diffuser tout ou une partie de nos données publiques sur le portail Open Data du département, à fournir des données interopérables produites selon des standards nationaux ou territoriaux s'il existe pour le portail Open Data du département. On s'engage aussi à utiliser les mêmes standards territoriaux que ceux utilisés par le département, à publier en priorité les données faisant partie du socle commun de l'autorité locale, ainsi que les données qui ont été identifiées comme étant des standards territoriaux. Dès lors qu'un nouveau standard est créé, que ce soit au niveau national ou bien au niveau territorial, le partenaire, nous, s'engage à modifier la production de jeux de données, à ouvrir en respectant le nouveau standard. Le délai de mise en conformité des fichiers selon un nouveau standard est défini par décret. Concernant les nouveaux standards territoriaux, le partenaire dispose d'un délai de 1 an à compter de la publication du nouveau standard pour réaliser la mise en conformité. Les mêmes délais de mise en conformité de données s'appliquent lors de l'évolution des standards déjà existants. À utiliser en priorité les mêmes licences de réutilisation qui sont choisies par le département pour les données publiées sur les portails départementales. À transmettre au département des données mises à jour fiables sans caractère industriel, commercial, à réaliser une mise à jour régulière et à participer aux travaux et réflexions qui seront menés par le département sur la standardisation des données du TAP. En gros, c'est ça. C'est juste une standardisation de ce qu'on fait déjà, en fait, à savoir. On transmet nos données à la métropole, on peut déjà, on va les transmettre au département, mais d'une manière correspondante à ce qui a été exprimé précédemment. L'article 5.
Livre 3, c'est une donnée.
Voilà, livre 2, chapitre 3.
Et donc, il faut qu'on désigne, merci Guillaume, mais donc il faut qu'on désigne une ou plusieurs personnes référentes. Donc, j'imagine que c'est toi, Guillaume, la personne référente.
Concernant tout le dispositif dont qu'a énuméré Guillaume, c'est quelque chose qui existe déjà actuellement. Il y a déjà un processus.
Oui, il y a déjà une transmission des données.
Je parle de la mise à jour, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà ?
Oui. Ok. Parce qu'on le fait déjà avec la métropole, en fait.
Ok.
On a déjà le confondant en fait, d'Ata avec la métropole.
Ce sera un nouveau standard technique.
Voilà, c'est juste un nouveau standard, mais ça existe déjà, il est en place.
C'est pas du boulot en plus, trop.
Non.
Pardon. C'est pas trop de travail pour nous, en plus. C'est ça ?
Oui, mais il n'y a pas de changement dans l'application.
Non, par contre, c'est glorieux parce que c'est, tout le monde peut le consulter et c'est transparent. Du coup. C'est là où c'est
ok, donc ce n'est que positif, il n'y a pas une remise.
Voilà, c'est exactement positif.
Non, c'est vrai, c'est important.
C'est Antoine. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guilhem ? Sinon, je vais en voir. Donc, en désignant donc Guilhem, Guilhem Gassin comme personne référente. Qui est contre cette affaire ? qui s'abstient. Donc on adopte à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc après, donc le point suivant, c'est l'avis du conseil municipal sur le pacte. C'est l'avis sur le projet de pacte de gouvernance de la communauté et métropole. Donc vous avez tous reçu, il y a déjà un moment de ça, hein, vous avez envoyé le projet de pacte de gouvernance. Donc, il est prévu, hein, dans le cadre de la, notamment de la mise en place des métropoles, que de tels pactes, alors qu'ils s'appelaient avant pacte de confiance des maires, là, on va appeler pacte de gouvernance, soit adopté. Donc la métropole a décidé de lancer donc ce processus en février 2021. Donc c'est un pacte. Donc il y a eu plusieurs réunions, hein, notamment sur qui ont réuni les maires. Donc j'ai assisté à une de ces réunions. C'était organisé par Paul métropolitain. Donc là c'était sur deux pôles, le pôle Piémont-Garrigue et le pôle Ouest, qui étaient ensemble à Pignan. Donc on a pu aussi là apporter des suggestions encore. Donc il y a trois sujets dans ce pacte. Il y a la question des valeurs, des projets, des dynamiques qui portent la coopération métropolitaine. Donc voilà, il y a eu des échanges sur ce sujet. La façon dont les communes sont associées au processus de décision intercommunale aux instances, c'est-à-dire que au-delà des décisions prises en conseil métropolitain avec les 92 conseillers, dont une 45 je crois sont de la ville de Montpellier, hein, et les autres, les 47 autres sont des différentes 31 communes, Muriel par exemple, il n'y a qu'un seul représentant. Donc à côté de ces conseils et puis des commissions qui sont afférentes, la question de la prise en compte aussi des communes en tant que telles. Donc par exemple aujourd'hui, ben, quand les bureaux de la métropole se réunissent avec ses vice-présidents, les maires sont présents aussi. Donc il y a un pied d'égalité dans le traitement des affaires entre les bureaux de la métropole, ses vice-présidents et puis et les maires. Et puis un volet sur les conditions d'exercice des compétences transférées, dans un souci de proximité. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup agité les communes, c'est la question de... Certes, on a transféré maintenant de très nombreuses compétences, hein, avec le district, puis l'agglo, puis la métropole maintenant. Beaucoup de choses ont été transférées, mais on le voit tous les jours, hein, ça reste quand même les maires et les élus des communes qui sont les interlocuteurs de proximité, et quel que soit le sujet, c'est le maire ou c'est les adjoints qu'on vient voir ou les conseillers. Et donc on est un peu le guichet, le port d'entrée, et on a besoin d'avoir vraiment une très forte proximité avec la métropole pour pouvoir gérer au mieux tous les sujets qui remontent. Quoi. Et puis de la même façon, même si on a transféré la compétence, on doit être associé sur les choix stratégiques, par exemple la voirie, l'assainissement, les choses comme ça, en tant que maire, hein, pas uniquement les conseillers communautaires. Voilà, sur les priorités qu'on veut mettre en termes de voirie, ça. Donc c'est ce genre de protocole de bonne entente, je dirais, qui est acté dans ces cas. Voilà, donc il y a eu une conférence des maires le 15 avril dernier, où il y a eu des derniers ajustements de faits, et maintenant, ben, avant qu'il soit adopté en conseil de métropole, c'est au conseil de métropole du 28 juillet, qui va être adopté, il doit d'abord passer dans les différents conseils municipaux, il doit émettre un avis, favorable ou défavorable. On espère qu'il est favorable globalement à la fin, vu le nombre d'allers-retours qui aura été commis. Ceci dit, si vous avez encore des observations, des suggestions à faire pour le bon fonctionnement de la métropole avec ses communes, voilà.
Alors, j'ai une remarque qui est récurrente et qu'on a déjà fait remonter lors de commissions, notamment sur la commission d'aménagement durable et celle du cycle de l'eau. Enfin, je pense que ça concerne aussi les autres commissions. On connaît les dates à l'avance, hein, puisqu'elles ont été définies dans le calendrier en fin d'année dernière. Donc on connaît les dates. Et malheureusement, il est récurrent que nous ayons les documents relatifs à ces commissions la veille pour le lendemain. Là, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça. Avoir des documents qui font plusieurs pages, des fois à 19h le soir pour des commissions à 9h le lendemain matin, je ne sais pas comment on peut faire. On a pourtant fait remonter pendant les commissions cette problématique, et on est nombreux, en fait, finalement, on n'est pas seul, on est nombreux, à demander à ce que la métropole revoie un petit peu son mode de...
calendrier des envois.
Alors, voilà, surtout son calendrier des envois, mais même si ce ne sont que des projets, si ce n'est pas le définitif, qu'on ait au moins déjà une... Parce que la plupart, à part à la ligne près, la plupart des choses sont déjà prévues à l'avance. Et nous donner la veille pour le lendemain, voilà, c'est juste pas possible. Pour travailler sereinement dans les commissions.
Ce sera transmis. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est important, la mission d'un... Si on ne veut pas que ce soit uniquement une chambre d'enregistrement, mais aussi un lieu où il y a vraiment des échanges, quoi.
Parce que si c'est juste pour avoir les documents, pour ne pas les regarder et puis dire oui, 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 ben finalement ça n'a pas grand chose. Alors que le but d'une commission, c'est de pouvoir échanger dessus.
On va donc transmettre, hein, parce que la délibération est transmise avec les observations. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Transmettre ? Sur le pacte de gouvernance ? Sinon, donc, on mettra cet avis. Donc, êtes-vous, moyennant cette suggestion, d'accord pour émettre un avis favorable au projet de pacte de gouvernance que vous aviez reçu? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à l'affaire numéro 7, telle qu'elle était prévue, donc, je vous ai proposé d'ajouter une affaire qui est celle de l'évolution de la grille tarifaire pour la restauration scolaire pour la prochaine rentrée. Donc j'imagine à mettre en place à la rentrée prochaine, c'est ça?
Oui.
Donc Hélène, je te laisse la présenter. On l'a sur table. Hein.
Donc l'État a mis en place une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Non, mais ça c'est l'affaire suivante. Là, on vote d'abord la nouvelle grille.
D'accord. En fait, pour introduire, donc les tarifs, les repères pratiqués actuellement varient en fonction des revenus et du nombre d'enfants à charge. Ce n'est pas en fonction du nombre d'enfants inscrits. En réalité, c'est du nombre d'enfants à charge. Donc actuellement, nous avons 5 tranches de revenus.
Sur la table, j'étais. Il y a ça.
Oui, oui. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui, d'accord.
Donc, est-ce que vous avez dit
ou pas? Donc, ce qu'il faut dire, c'est la nouvelle grille. La direction.
Voilà, donc nous avions 5 tranches de revenus. Et dans le cadre de sa politique sociale, la municipalité souhaite continuer à moduler les contributions des familles en fonction des revenus des foyers et du nombre d'enfants. Elle souhaite promouvoir un accès pour tous à une alimentation saine et locale. Dans ce cadre, elle souhaite s'engager pour mettre en place une tarification à 1 euro pour les familles aux revenus les plus faibles et dans le même temps créer une nouvelle tranche pour les revenus les plus hauts, supérieurs à 100 000 euros. Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'adopter la tarification suivante à compter du 1er septembre 2021. Donc nous avons créé une tranche de revenus inférieurs à 10 000 euros. Bénéficieront du repas à 1 euro qui est subventionné par l'État. Ensuite, la tranche entre 12 000 et 30 000 euros que nous avons fixée alors pour un enfant à charge à 3,50 euros. Sachant qu'on avait une proposition pour peut-être diminuer un petit peu, Isabelle et...
Mais là, maintenant, on n'a pas eu le temps.
Donc, on le laisse à 3,50 euros.
C'est ce que payaient déjà les personnes avant. Donc là, pour elle, ça reste inchangé. C'est ça qui est important de dire.
Oui, c'est inchangé. Pour la tranche entre 15 000 et 30 000, ça ne change rien. Effectivement, ils payent ça.
Pour la tranche... Ils payent moins cher.
3,70.
Ceux qui sont entre 15 et 30, ils payent moins cher.
3,50.
C'est pas mal changé. Donc, entre 30 000 et 50 000, 3,90 pour un enlèvement à charge. Ça y est, une petite différence de 5 centimes de plus. Entre 50 000 et 75 000, donc 4,30 euros pour un enfant à charge. Ça fait 20 centimes de plus qu'avant. Et pour les revenus supérieurs entre 75 000 et 100 000, donc 4,50 euros, là ça on fait un petit peu de 15 centimes. Et pour les revenus supérieurs à 100 000, pour rejoindre 5 euros. Voilà. Ce qui fait une augmentation de 65 ans.
Et ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'avec cette nouvelle ventilation, en termes budgétaires pour nous, Grosset, c'est ISO. Ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on reste au même montant de recettes globales, sauf qu'on ventile différemment et de façon beaucoup plus sociale, je dirais, le prix des repas. C'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça. Et donc, aussi, il faut savoir que bah, aussi, on a réfléchi à ça parce que parce qu'il y avait eu cette proposition de tarification à 1 euro sur les plus faibles revenus qui va être subventionnée pendant 3 ans. Mais après ces 3 ans, il faudra qu'on voit aussi comment on fait pour. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu ventiler plus les tarifs.
Voilà. C'est-à-dire que cette grille, une fois que la subvention dont on va parler après s'arrêtera, on reste dans un modèle économique qui est durable pour nous.
Ben oui.
C'est ça qui est
important. Dans le tableau qui a été fait, du coup, pour établir ça, c'est-à-dire qu'en gros, pour nous, les subventions de ces 3 euros, ça va être tout bénéf. En 3 ans, on prend les subventions dans la poche et après, on retourne à ce qu'on avait avant, ouais. En termes de coût.
Oui, vous allez relisser la perte sur les autres tranches. En
fait. Voilà.
Oui. Après, de toute façon, il faudra revoir tous les ans en fait cette grille parce que les pourcentages de familles vont varier.
Là, vous êtes fondé sur la base des 150 familles de 2021, ouais. C'est ça ouais.
De 2021, du coup, l'année prochaine, si on se retrouve avec beaucoup moins de familles.
Ah, bah, c'est sûr.
Parce que là, il y a une quinzaine de familles qui ont un revenu de plus. 100 000 euros par exemple. Donc, si on se retrouve l'année prochaine avec 5 familles, par exemple. Donc, en fait, tous les ans, il faudra qu'on réévalue cette grille avec le pourcentage.
Et puis surtout avec les salariés.
Voilà,
on ne sait pas trop aussi encore exactement dans quelle tranche de revenus.
Donc, disons, on le teste comme ça. Ouais. On propose de tester comme ça. Un an,
en tout cas, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a parce qu'on ne peut pas dire deux mots du marché de restauration, donc on va avoir faire en dire deux mots à la prochaine rentrée. Donc, le marché de 3 ans s'arrête, donc on a relancé un nouveau marché, avec toujours de la meilleure, enfin, une qualité toujours meilleure. Enfin, tu peux venir.
Oui, avec toujours 50% d'alimentation locale et 50% bio. Mais aussi avec. Alors, on augmente la part du local, il me semble. Et puis, bon, ben, surtout, il y a un gros effort qui était sur la diminution des déchets, en prenant des produits qui ne sont pas sur-emballés, fromages individuels, et puis il y a autour de la maison, en faisant des conditionnements plus gros. Mais bon, avec en tout cas une qualité de.
Du fait maison, très 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 peu de, genre 84% c'est du fait maison, très peu de congelé, donc c'est aussi ce qui est important pour les petits, c'est d'avoir une cuisine, voilà. Quelque chose qui soit fait avec des bons produits, mais bien cuisiné aussi. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on cherche toujours à améliorer la qualité de l'alimentation des enfants, mais en même temps que les personnes les moins aisées, en même temps que la qualité s'améliore, le coût diminue, moi je trouve que c'est super. Parce que c'est tellement important l'alimentation, comment pour les petits.
C'est juste un petit détail, dans le 50% de bio, on sait un petit peu ce qui est bio local ou non. Non, c'est pas non, mais c'est juste c'est dans la réflexion, parce qu'on a, il y a 50% de local, là, et 50% de bio. Mais dans le bio, il n'y a peut-être pas forcément
du local.
Ouais.
Et dans le local, il
n'y
a pas de bio. C'est
ça.
C'est comme ça.
Ouais, c'est possible.
Je leur donner du vin, il y aurait beaucoup de bio local.
Est-ce qu'il y a des observations sur cette nouvelle grille tarifaire?
J'avais juste une question, parce que le chiffre avait dû être donné, mais est-ce qu'on a une idée précise de combien revient un repas servi à la cantine, à la commune? Si on intègre le coût de ce qu'on paye au prestataire qui fournit la nourriture, plus tout le service qui va autour,
est-ce qu'on... C'est 8,04 €.
C'est autour de 8,04 €. D'accord. Okay. J'avais vu le chiffre en tête.
Ouais, c'est entre 8 et 9 €. En prenant tout, hein, oui, les ressources humaines, le temps de travail, tout ça. L'eau, sauf que là, par contre, notre coût, nous, va augmenter parce qu'on a fait des gros travaux. On va avoir besoin, avec le self et toute la vaisselle, etc., de 30 heures en plus au niveau des personnels du centre de loisirs. Mais, donc ça va être, dans les premières années, le coût va être plus élevé, mais avec ces investissements et ces personnes en plus, on pourra absorber une grosse augmentation d'enfants. Donc quand les enfants des saliniers vont arriver, parce que avec le nouveau dispositif, on pourra accueillir plus d'enfants. Du coup, le coût ramené au nombre de repas va rediminuer. Je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu des mathématiques. Donc, on va passer quelques années, là, peut-être 2 ans, 3 ans. Il faudrait qu'on voit à faire des estimations, hein, des évolutions de nos recettes et de nos dépenses. Là, dans notre budget, avec ces donnes, on a des dépenses en plus. Et où on a des recettes aussi qui vont arriver, mais décalées, liées à l'accroissement du nombre d'enfants. En tout cas, l'extension du restaurant scolaire, on est prêt à accueillir l'augmentation du nombre d'enfants. Il était limite, hein. Il était vraiment limite.
Et là, ça démarre, les travaux.
Ça, il y a les travaux commencés.
Et ça avance là.
Voilà, 8,70 €. 8,70 € le coût complet. Mais avant les travaux, il faudra qu'on le recalcule et je vais vous expliquer. Bien, oui. Peut-être après, je pense que là, j'entends pas bien. On clôt les délibérations. Donc, la nouvelle grille qui est proposée, merci beaucoup pour le travail. Donc, on passe de 5 tranches à 6 tranches. En fait, c'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, du coup, on passe à l'affaire 7 sur la convention, qui a été un petit peu à l'origine de notre réflexion. C'est toujours toi, Hélène.
L'État a mis en place une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Parmi ses engagements, figure celui de conforter les droits fondamentaux des enfants et réduire les privations au quotidien. Afin d'alléger le poids des dépenses d'alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la réussite, l'État soutient la mise en place par les collectivités de tarification sociale des cantines scolaires. Pour cela, l'État verse aux collectivités qui s'engagent une aide financière de 3 € par repas, servie au tarif maximal d'un euro, dans le cadre d'une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus des familles. Cette grille doit comporter au moins 3 tranches, donc au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €. Donc ça, nous, on a 6 tranches. Donc
on est largement au-dessus. Voilà.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil d'engager cette démarche de tarification progressive et de valider les 3 tranches proposées.
Non, enfin les 6 tranches proposées.
Je ne suis pas d'accord. Autoriser Madame la Maire à signer la convention triennale de tarification sociale des cantines scolaires jointe à la présente délibération. Autoriser Madame la Maire à signer tout document y afférent.
Voilà, donc on vient d'adopter les 1 €, donc ça c'est fait, et puis maintenant donc, on vous propose d'engager cette convention avec l'État. pendant 3 ans. Est-ce qu'il y a des observations? Donc du coup, je me revois. Qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup pour ce boulot, c'est des beaux chantiers, tout cela. Et puis, on passe au dernier point, donc, qui est la création d'un poste de brigadier à temps complet à compter du 1er septembre 2021. Donc là, on en a longuement échangé entre nous. Il s'avère que la création de ce deuxième poste est très nécessaire. Alors, il n'est pas lié à l'augmentation de l'insécurité sur la commune. Hein. Je vous ai fait suivre les statistiques de la gendarmerie, qu'il s'agisse des cambriolages ou des vols de voitures ou des choses comme ça. On n'a pas d'augmentation, au contraire. On a même des diminutions. Par contre, on a énormément d'activités sur la commune pour gérer les questions de police de la circulation. Parce que, voilà, on note les excès de vitesse et les vandalismes qui sont vraiment de plus en plus importants. On a beaucoup de travail au niveau du code de la police de l'urbanisme. C'est une activité qui explose. On a beaucoup aussi de travail au niveau de la police de l'environnement, avec tout ce qui se passe en zone A et zone N, les multiples dépôts, remblais et j'en passe qui se multiplient dans la campagne. On a une activité qui augmente parce que la population tout simplement augmente et puis elle va augmenter avec les saliers. On a besoin d'une présence plus importante sur la semaine. Aujourd'hui, la policière actuelle est là 4 jours sur 5 la semaine. C'est bien, ce sera intéressant d'avoir 2 personnes dans une présence le mercredi. Le fait aussi d'avoir 2 policiers, ça pourra quand même aussi faciliter les patrouilles. Ce qui n'est pas forcément évident, une personne seule. On a aussi, on l'espère avec le parvis des écoles, qu'on va alléger le poids de la présence de la policière, mais là aussi, ça demande pas mal d'occupation. Enfin, voilà. On a aussi du suivi au niveau du plan communal de sauvegarde, du comité communal des feux de forêt, des obligations légales de débroussaillement, tout le suivi, c'est aussi bientôt les policiers qui doivent gérer tout ce qui est les systèmes de sécurité dans nos bâtiments, les alarmes, etc. C'est aussi les policiers et policières qui suivent tout ce qui est les mises aux normes des jeux, les normes d'évacuation incendie, tout ça dans les bâtiments. Enfin bon, le travail avec les écoles sur ces sujets-là. C'est aussi tout le travail lié aux événements, aux fêtes, à toute l'organisation de tout. C'est énormément de choses. Et je ne parle pas de l'administratif, les arrêtés, qui sont nombreux, pour les travaux, pour la circulation, etc. Donc, on compte souvent un policier pour 1000 habitants, on en parlait déjà depuis un moment, on arrive à 2000, avec le salinier 2300, 2400, et voilà, on sent bien que le besoin est là. Donc, on a travaillé sur la fiche de poste, avec les adjoints, avec Nathalie, avec Armel. Donc, on va lancer le recrutement. Je ne sais pas si la fiche de poste a été envoyée, Nathalie, ou c'est fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir recruter à l'automne, dès que possible. Après, on risque d'avoir un délai, parce que si la personne recrutée doit elle-même donner un préavis de 3 mois dans la collectivité où elle se trouve,
Si elle doit former.
Alors, on demande une personne formée. On demande une personne formée. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut... Et donc, pour pouvoir avancer, on doit officiellement, dans notre tableau des effectifs, créer un nouveau poste de fonctionnaire.
Laurence, puisqu'on double le poste, y aura-t-il une présence le week-end ? Est-il prévu qu'il y ait justement une amplitude au niveau de la semaine un peu plus importante ?
Alors,
au niveau de la journée ?
Alors, pas tous les jours, mais ce qu'on va prévoir très clairement, c'est ça. Alors après, c'est des systèmes de rattrapage, mais de prévoir des présences régulières, pas toujours le même jour de la semaine, parce que sinon, mais vraiment régulières en soirée, pour être présente soit plus tard en soirée, soit plus tôt le matin. C'est intéressant d'être là le matin, 6 heures. Et puis, sur le week-end. Donc ça, c'est voilà, déjà, il y a le moment des événements, des fêtes, etc. Mais on peut... Alors, on ne l'a pas envisagé de façon régulière, mais on peut tout à fait en parler ensemble.
Il y a une présence décalée, parfois.
Mmh. Mais ça a été mis dans la fiche de poste.
Ouais, ça a été
alors
mis,
que la personne dans la fiche de poste sait qu'elle a des horaires qui peuvent être décalés le soir, la nuit, voilà, voire le week-end.
Mmh. Oui, c'est l'intérêt c'est aussi.
17h, il n'y a plus personne.
Est-ce qu'il y aura systématiquement un week-end ou deux week-ends par mois où ils seront là, où il y aura des policiers?
Ça peut être. Enfin,
ça, c'est aura, assez pas forcément que quand il y a des fêtes, ce que je veux dire. N'importe quoi, le temps, je parle.
Ça, il faut qu'on le convienne avec la personne dès qu'il y a.
Il y a un week-end par mois. Alors, il va être décalé, il faut qu'ils soient décalés pour pas que les gens aient des présences.
Tout à fait, ça,
il faut qu'on
prévoit au recrutement.
Voilà, en fait, ça a été mis dans la fiche de poste, comme ça, on sait la possibilité de le faire. Maintenant, il faut le définir. Et avec la personne et avec les besoins, et puis voilà. Et le coût aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais au moins on l'a mis dans la fiche comme ça, la personne n'est pas surprise si elle a décidé de faire le week-end.
C'est ça l'histoire de ta joueur turque. C'est le fait de lâcher les trucs, voilà. C'est typique de le policier sur place. Quoi.
Après, quand il n'est pas là, il reste la gendarmerie.
On a quand même les gendarmes qui ne sont pas pour ça.
Oui, c'est les gendarmes. Il faut faire attention parce que c'est un coup. Il faut savoir que vraiment sur la métropole, il y a quand même encore deux ou trois communes pour pas de policiers, par exemple. C'est la gendarmerie qui fait tout. Et logiquement, il y a tous du ressort de la gendarmerie. Donc, il ne faut pas qu'on vienne combler un vide qui est du ressort. Les gendarmes, pour votre information, j'ai eu le commandant au bout du fil. M'a dit que maintenant, quand ils se déplacent pour des nuisances de bruit la nuit, quand ils se déplacent, ils les réalisent. Maintenant, c'est le consigne qu'il a donné.
Il verbalise.
Et alors, Patrick me dit qu'ils viennent de Castelnau la nuit.
C'est possible, oui.
D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne savais pas.
On fait partie de la compagnie de Castelnau, qui regroupe 80 communes, je crois, la compagnie Castelnau, sauf Montpellier, hein, qui est en dehors. Et la compagnie de Castelnau, donc nous, notre brigade, la brigade de Saint-Georges, qui comprend 7 communes. Montarneau, Montpellier, Juvignac, Saint-Georges, Angignan, Saussan, La Vérune.
Gravel, non?
Pardon?
Gravel, non?
Pas Gravel, non. Juvignac, c'est sûr. Juvignac, Saint-Georges. Cette brigade donc, fait partie de la compagnie de Castelnau.
D'accord. Après, ça dépend de la patrouille.
Si après
c'est la patrouille
les...
de Saint-Georges, c'est la patrouille de Saint-Georges qui tourne sur le secteur qui va venir. Mais si c'est la patrouille qui est là au bout, c'est pour ça qu'il faut une demi-heure. C'est.
Ils ont des tours de route. Ils organisent leur patrouille au sein de la compagnie.
D'accord.
Et le numéro d'astreinte qu'on vous fait, le 17, vous ne tombez pas sur la gendarmerie de Saint-Georges. Vous pouvez tomber sur une autre brigade, hein, selon les tours de route. Bien, donc sur ce poste, qui est contre, qui s'abstient, et bien il a adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Juste en conclusion, en fait, en point divers. Donc j'ai signé, comme on a convenu, la charte pour l'Europe, la citoyenneté pour l'Europe tout à l'heure. Mais bon, Julia, elle l'avait déjà signée en 2019. Il faut savoir qu'en 2019, donc vous avez re-signé avec la nouvelle mandature, on avait été une des rares communes de l'Union européenne. Il y avait 4 États. Peut-être rappeler les événements qui arrivent, là, parce que c'est notre dernier conseil municipal avant les vacances. Donc les événements qui nous arrivent, Corinne.
Il y a un dimanche à 11h dans la cour de l'école, donc nous aurons le privilège de voir une représentation de. Spectacle de danse dans le blues. Donc voilà, ça pourrait être qualifié. Et donc le 17 juillet, samedi 17 juillet, il y aura aussi spectacle, un concert quatuor de guitare organisé par le festival et le radio.
L'église, c'est ça?
Pardon,
à l'église. Et tout ça, c'est gratuit. Hein.
Tout ça, c'est gratuit. C'est. Offert par la métropole.
Il n'y a plus de jauge.
Pardon.
Il n'y a plus de jauge.
Normalement, non, depuis hier.
Depuis hier,
c'est fini.
Donc on va pouvoir tenir ce conseil municipal. dépôt dans la salle du conseil.
Ah oui. On est pas mal.
Et il y a samedi, il y a le défilé d'Armite.
Ah,
oui.
Ah aussi. Effectivement, il y a le défilé
costumé d'Armite avec
et le 13 juillet.
Non, la carte opérative.
Non, c'est devant la
Côte. Et le 13 juillet.
Le 13 juillet, c'est la fête nationale avec l'association Les Eaux Blanches pendant l'apéritif offert par la mairie. Ensuite, on a le groupe Toudou qui va jouer pendant le repas. Et on finit avec un spectacle de cirque indigo, d'acrobatie et de jonglerie lumineuse.
Voilà. Pour remplacer le feu d'artifice.
Voilà.
Ça se passe par où ?
Ça se place sur le parking de l'Esplanade.
Donc le parking va être refait, Patrick ?
Lundi, à partir de lundi, le parking a les attaques pour 3 jours, pour 4 sur les travaux. Le parking, la réflexion du parking central, toute la partie qui est sur le côté, il était tout allumé, là où il y a les allumements de plastique.
Et, on enlève le plastique.
Voilà. Et la buse qui donne sur terrain des Sœurs Jonquet, là, et une bus qui est bouchée, c'est une bus de l'eau. Tout ça, ça va être à temps de travaux, là, pendant quelques jours, là.
On enlève le plastique, on met quoi à la place ?
Que du de la recoupe de pignon.
Ah, mais des trucs qui se durcissent, là.
Voilà. En fait, l'idée, c'est que ce grillage, là, plastique, devient très dangereux. Moi-même, j'ai failli, quand il pleut, on glisse comme je sais pas quoi. Les personnes qui ont des talons se tendent les chevilles. Enfin bon, ça devient dangereux parce que tout ça départit. Donc ils enlèvent toutes les grilles et à la place de la recoupe de pignon, tout ça. Voilà. Donc là, pendant une semaine, il y a des travaux. Et l'idée, c'est que tout soit fait, tout beau,
pour
Séverine, pour le 13 juillet.
Ah ouais.
Début des vacances, donc logiquement, plus trop de parents.
Et je vais juste ajouter que le repas sera préparé par le food truck et c'est paella et réservation auprès du comité des fêtes. Voilà.
C'est quand ? Bon, ça, c'est toutes les réjouissances de l'été.
La paella, c'est le 13 ?
Le 13 juillet.
Le 13, oui.
C'est pour le 13 juillet.
Voilà, donc ça c'est les petites manifestations de l'été. On aura, je pense, aussi la Métropole Fait son cinéma au mois d'août.
Ah oui, pardon, j'avais oublié. Voilà, un petit moment.
C'est quel film ?
Et il y a eu un changement de film, ça devait être Martin Guerre, et en fait ils n'ont pas eu les droits. Et du coup là, j'ai un trou, je me souviens du coup du film qui a été sélectionné.
Non, c'est pas grave. Tu nous connais pas ça ? Tu connais la date ?
Et il me semble que c'est le 24.
Bien.
Et mardi, on se réunit.
Et mardi, c'est réunion élue.
Mais
vous
allez le rappeler
parce que. Ouais.
On arrête le conseil municipal ici.
Oui.
Donc le conseil est clos. Merci. On va arrêter l'enregistrement.